Je viens de passer une heure à enregistrer un truc de 40 minutes et mon enregistrement a juste buggé. Je n'en peux plus de iPhone. Voilà, je le dis, je n'en peux plus. J'ai trop la haine, j'avais tout bien expliqué, j'avais tout bien fait, j'avais tout. En plus, juste avant, j'ai passé 30 minutes à chercher un écouteur à la con, alors qu'il était juste sur mon bureau. Il est 6h du matin, les gars. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus mes parents et mon frère, il n'y a que ma sœur. Donc en soi, je vais avoir du temps pour enregistrer dans le calme. Mais ça fout la haine quand même. Ça fout la haine de ouf. 37 minutes, les gars. 37 minutes. Je n'en peux plus. Je vais tout refaire. Il n'y a pas de problème. Je vais tout refaire. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Vraiment, c'est trop bien. Bon, c'est trop bien. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand je dis c'est trop bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, accrochez-vous. Parce que je crois que même, vu que à quel point c'était long, ça a duré quand même 37 minutes. Je pense que je vais faire 2 épisodes. Parce que c'est quand même vachement long. Générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien assis correctement, j'espère que vous êtes posés, j'espère que vous avez une petite boisson. Je me rappelle d'ailleurs dans mon ancien enregistrement, je crois que je vous ai même pas demandé si vous alliez bien, si vous étiez bien assis, bien confortable, bien truc. J'ai bien fait de refaire. Parce que comment je fais un épisode de podcast et je suis pas enthousiaste comme ça? En fait, je crois que j'étais saoulée parce que, en fait, comme je vous ai dit, j'ai passé 30 minutes à chercher un écouteur et en fait, au bout d'un moment, est-ce que j'ai ce temps à perdre? Sachant qu'il est quand même déjà 6h du matin. Mais je me dire, mais pourquoi tu fais pas ça la journée? En fait, je sais pas. Généralement, la nuit, c'est le moment où je suis le plus inspirée. Bon, si vous entendez des petits bruits de petites perles ou des trucs comme ça, j'ai un truc qui est accroché à mon téléphone et du coup, des fois, ça bouge. Pourquoi je fais ça la nuit? Parce que c'est le moment où je suis le plus inspirée, c'est le moment où j'ai le plus de choses à dire, où c'est le moment où j'ai le plus d'idées, etc. Donc, j'aime bien faire ça la nuit. Et voilà, en fait, c'est mais bon, faudrait quand même que je dorme un peu. Mais bon, on va faire ça vite. Du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien assis confortablement avec une petite boisson, avec un petit truc à manger, avec peut-être rien. Peut-être que vous êtes juste là pour essayer un peu de dormir. Donc, je vais essayer d'être un petit peu calme. Si vous écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous essayez de dormir, je vais être un petit peu plus calme. Et si vous écoutez ça la journée, bah, je vais essayer de faire un petit peu un truc modéré. Enfin, bref. Je vais essayer de pas trop vous casser les oreilles. Mais voilà, aujourd'hui, ce sera un sujet du tonnerre. Parce que c'est un sujet, je vais vous dire très clairement, c'est un sujet, c'est 10 ans de ma vie. Tout simple, clair, net, précis, c'est 10 ans de ma vie. 10 ans. 2015 to 2025. Bro, 10 years. 10 ans. On va parler de la K-pop. Non mais je vous avais dit, aujourd'hui ça allait être un sujet un peu farfelu, un peu zinzin. Parce que croyez-moi que j'en ai des choses à dire. Accrochez-vous parce que ça va être la folie. Bon d'abord, reprenons par les bases. Qu'est-ce que c'est que la K-pop? Et là, vous allez voir à quel point c'est zinzin. Parce qu'il n'y a même pas qu'une réponse, il y en a deux. Voilà, on va commencer comme ça. Il n'y a pas qu'une réponse, il y en a deux. Vous allez me dire, pourquoi il y a deux réponses? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a le camp des gens simples, j'allais dire les simplistes, mais je ne sais pas si c'est un vrai mot. Des gens simples, on va te demander, c'est quoi la K-pop? Ils vont te regarder dans les yeux, ils vont te dire, bah, Korean pop coréenne. Et en soi, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Pas vraiment, mais un peu quand même. Et c'est là que vient la seconde définition. La K-pop, c'est pas qu'un genre musical, c'est une industrie. Voilà. La K-pop, c'est une industrie musicale. Attention, pas musicale, musicale. D'accord, c'est bien. C'est une industrie musicale qui a été créée au début des années 90. Et il y a des groupes, du coup, qui sont apparus et qui ont fait émerger ce genre. Bah du coup, non, je me contredis, j'ai dit un genre. Des fois, vous allez m'entendre dire genre, musical, etc. C'est plus pour la compréhension du podcast que pour la définition. Je vais appeler ça un genre. Ça peut être contradictoire, mais c'est plus pour la compréhension qu'autre chose. Donc, l'émergence de cette industrie, de ce genre, par des groupes comme So Taiji and the Boys, comme SES, ça ne va pas confondre avec SES, la matière au lycée, ma spécialité de première que j'ai lâchée, bien évidemment, et que je n'ai même pas passé l'épreuve avec Covid. Avec la création des grosses agences en Corée, la SM, YG Entertainment, JYP Entertainment, qui vont former le Big Three pendant plusieurs années avant que Hybe arrive. Bref, c'est tout un bourbier, je vais vous expliquer un peu le délire des agences. Et tout ça, donc on va dire du début des années 90 jusqu'au début des années 2000, on va appeler ça la première génération. On va me dire, c'est quoi ça encore les générations? La K-pop, c'est délimité par génération. Vous avez la première génération, comme je vous l'ai expliqué. La deuxième génération qui débute, on va dire, en 2006-2007 et qui se finit vers 2012-2013, on va dire ça comme ça. Puis vous avez la troisième génération qui débute du coup en 2014, qui va jusqu'en 2020. Vous avez ensuite la quatrième génération qui va de 2020 jusqu'en... Alors là par contre, c'est un peu le moment où j'ai un peu arrêté de suivre le délire des générations parce que... C'est... En fait, on est tellement dans une ère où tout va vite et tout est consommé hyper vite et tout est remplacé hyper vite que, en fait, ce délire de génération commence un peu à se perdre et les gens ont un peu tendance à passer à autre chose super vite. Donc, en vrai, je pense que ça va de 2020 jusqu'en 2024, je crois. Mais vous remarquerez, du coup, que c'est beaucoup plus court que les générations précédentes. Mais c'est tout simplement parce que les gens ont envie de passer à autre chose vite, ce qui, in my honest opinion, est pas dingue, du coup, pour les groupes de 2020, qui n'ont pas eu forcément... Enfin, pas forcément que 2020, mais du coup, entre 2020 et 2024, qui n'ont pas eu le temps de vraiment se développer, tout ça, parce que bah, vous êtes juste vite passé à autre chose. Bref, on va en parler de ce délire de passer à autre chose vite, parce que ça fait partie un peu des défauts de cette industrie musicale. Mais du coup, voilà, chaque génération est marquée par son ou ses groupes, par ses événements majeurs, par ses nouveautés majeures. Par exemple, dans la seconde génération, enfin non, la deuxième génération du coup, t'as l'apparition de Girls' Generation, Big Bang, 2NE1, Super Junior, tous ces groupes-là qui ont été un peu des pionniers de la K-pop dans les années 2000, et bah ils ont ramené des nouveautés, ils ont explosé mondialement ce que les groupes de la première génération n'ont pas su forcément faire, et ça a un peu été les précurseurs de la K-pop à l'international. Ensuite, il y a eu du coup la troisième génération qui a confirmé la place de la K-pop à l'international. Quand je dis à l'international, c'est vraiment dans le monde un peu western, donc ça veut dire les États-Unis, l'Europe, le reste de l'Asie. Enfin, c'était un peu, ça a un peu commencé par là et après, au fur et à mesure des années, ça s'est étendu en fait au monde entier, quoi. Pour vous dire, moi, quand j'ai commencé à écouter de la K-pop, quand j'allais au bled, personne ne savait ce que c'est. On prenait un peu pour une folle. Franchement, j'ai une scène dans ma tête de moi qui écoute du coup une musique et ma tante qui vient vers moi et qui dit « Mais qu'est-ce que t'écoutes ? C'est quoi que t'écoutes ?» Et moi, je lui dis fièrement « Ah, c'est de la musique, c'est en coréen. » En fait, c'est des artistes, c'est des coréens, genre. C'est des coréens. Voilà. Et t'as juste ma tante qui a fait « Ah, c'est bien. Ah, d'accord. Ok. » Elle n'a absolument pas capté ce que j'écoutais. Enfin, je pense qu'elle a compris, mais en même temps, elle se disait, mais what the fuck. Vraiment, je comprends pas. Bon, du coup, si on revient au sujet initial, comment tu deviens une idole de K-pop en Corée ? Bon, c'est vrai qu'il y a un peu des documentaires à gauche, à droite sur les derrières de la K-pop, un peu dark et tout. Mais du coup, bon, concrètement, comment ça se passe ? En gros, bon, généralement, c'est des jeunes. Avant, ils étaient un peu... Non, quoique... J'allais dire avant, ils étaient un peu moins jeunes. Enfin, les candidats étaient un peu moins jeunes qu'avant, mais en vrai, ça a toujours tourné autour des 15 ans, 14 ans, 16 ans. Il y en a qui étaient là, qui sont devenus, bon, les trainees, je vais en parler un peu après de ce que c'est, qui sont devenus trainees même en étant enfants. Mais du coup, bon, généralement, c'est des jeunes de 15-16 ans qui candidatent à des auditions qui ont été lancées soit en Corée, soit mondialement, tout ça. Et du coup, bah, tu passes une audition soit en envoyant une vidéo, soit en allant sur place, mais bon, généralement, quand c'est en Corée, bah, tu vas sur place, tu présentes ce que tu veux, tu chantes ou tu danses ou tu présentes un talent que t'as, tu joues un instrument ou peu importe. Et si t'es retenu, tu deviens ce qu'on appelle du coup un trainee. Donc, ça veut dire que tu vas t'entraîner sous cette agence. T'as pas encore de contrat, donc tu travailles pas en fait, tu n'es pas salarié ou quoi que ce soit, tu ne gagnes pas d'argent en fait en étant trainee, mais tu t'entraînes pour espérer un jour signer un contrat sous cette agence et pouvoir officiellement débuter, que ce soit en solo ou sous un groupe. Voilà. Le problème dans ce système, c'est que t'en as certains qui vont peut-être pas rester longtemps trainee, ils vont peut-être le rester un an, quelques mois, deux ans, trois ans, tout ça. Mais t'en as certains qui restent trainee très longtemps parce que bah, ils sont pas forcément sélectionnés pour être dans un groupe. Peut-être qu'ils considèrent qu'ils sont pas encore bons parce que, en fait, faut aussi savoir que quand tu es trainee, t'as des évaluations mensuelles qui font que après il y a un classement des trainees. Je sais pas si ça se fait dans toutes les agences, mais en tout cas, il y a des agences qui font ça.
Et du coup, bah, ceux qui sont le mieux classés, c'est ceux qui sont le plus aptes à débuter en fonction du projet qui est en train d'être mis en place. Et voilà, bon, on va aussi omettre les survival shows, parce que t'as des survival shows, du coup, bah, c'est des projets qui sont en place et du coup, bah, t'as des participants qui participent à des talent shows. Non, pas des talent shows, du coup, survival shows, où du coup, bah, c'est le public qui vote pour savoir qui est-ce que, quels membres ils vont retenir pour former le groupe final à la fin. Ça a été le cas, par exemple, pour Twice, qui sort du survival show, si je dis pas de bêtises, 16. Ça a été le cas pour IZONE, qui sortait du survival show Produce 48, si je dis pas de bêtises encore une fois. Ça a été le cas pour IOI, qui sortait du survival show Produce 101. Il y a eu aussi Boys Planet, qui sortait du coup de la version masculine des Produce. Enfin bref, il y a un tas de survival shows, il y en a plein. Du coup, soit tu prends la route classique et tu t'auditionnes en espérant d'être prise, soit tu passes par la case survival show et il y a des idoles qui font... Enfin, il y a des personnes du coup qui font plusieurs survival shows. Il y a même des idoles qui, avant, étaient dans un groupe, qui participent à des survival shows pour espérer redébuter, se faire un peu un renouveau dans leur carrière, quoi. Bon, et après avoir signé un contrat, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Bah, concrètement, ce qui se passe, c'est que, bah, tu travailles pour l'agence et tu deviens, du coup, officiellement une idole, mais... Malheureusement, ça se termine par là. Parce que même si t'as un peu atteint ton goal, ton rêve de devenir idole, bah en fait, ça reste quand même un calvaire. Parce que t'as une image tellement précise à tenir. Des fois, t'as même des agences qui imposent des images à certaines personnes en fonction du projet qu'ils ont en tête. Par exemple, bah, toi, tu seras le visuel. Toi, tu seras la personne mignonne. Toi, tu seras la personne qui est tout le temps fâchée. Toi, tu seras un peu la garçon manqué du groupe. Par exemple, ça a été le cas pour Jonghyun, qui, au début de la carrière, enfin, au début du groupe Twice, donc vers 2015-2016, je crois qu'elle a gardé cette coupe jusqu'en 2017. Mais du coup, en fait, au début de Twice, elle avait toujours les cheveux super courts parce que, en fait, son concept à elle, c'était être une girl crush. Je sais pas si vous avez un peu la ref de ce que c'est une girl crush. Mais du coup, voilà, elle avait un peu cette image, elle devait du moins avoir cette image de meuf rebelle, girl crush, garçon manqué, cheveux courts, etc. Mais toujours en dansant les trucs cute, etc. Parce que, bah, en vrai, c'était un peu sa vraie personne, je pense. Mais du coup, après, en 2017, elle s'est laissée pousser les cheveux. Au bout d'un moment, elle avait les cheveux mi-longs, etc. Enfin, cette phase est un peu passée. Là, maintenant, elle a plus du tout ça. Parce que, bon, au bout d'un moment, Twice, ça fait quand même 10 ans qu'elles ont débuté. Là, elles sont quand même à leur pic en termes de popularité. J'ose espérer qu'elles puissent un peu faire ce qu'elles veulent, quoi. Mais du coup, bon, il n'y a pas que ça qui est imposé par l'agence. Il y a aussi des choses, on va dire, un peu... Quand je dis normal, c'est-à-dire que ça, c'est répandu dans à peu près toutes les agences. Mais en soi, ce que je veux dire n'est absolument pas normal. C'est des choses normales comme, par exemple, contrôler son poids. Ça, c'est dans toutes les agences. Tu n'y échapperas pas. Il faut absolument que tu contrôles ton poids avec exigence. Par exemple, bah, si on reprend l'exemple de Twice, Momo, avant de débuter, et bah, en fait, on lui disait, OK, bah, pour débuter, il faut que tu perdes 7 kilos en une semaine. Et du coup, bah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle mangeait littéralement un glaçon par jour. Et elle en est même arrivée à penser que même ce petit glaçon pourrait lui faire prendre du poids, tellement elle était parano. Mais du coup, en fait, au bout d'une semaine, elle n'a même pas réussi à perdre les 7 kilos, même avec cette technique. Et du coup, ils lui ont dit, OK, on te laisse 3 jours de plus. Au final, elle a réussi à perdre les 7 kilos. Et du coup, en fait, quand les membres l'ont revue, elles ont dit, mais tu étais archi pâle. T'étais pâle en direct, t'étais une mort vivante. Et en fait, quand elle a débuté, elle s'est remise à manger et elle a repris tous les 7 kilos qu'elle avait perdus. Parce que bah, forcément, en fait, les 7 kilos qu'elle a perdus, c'était pas du gras. C'était de l'eau, c'était un tas de trucs. C'était peut-être un petit peu de gras. En tout cas, c'était pas que du gras. Enfin bref, la Corée qui vit un peu dans un idéal de beauté, de femme qui doit être archi mince et les gros qui sont persécutés, c'est pas tant nouveau que ça, on va dire. Mais cet aspect du contrôle des idoles, il est quand même mentionné souvent par justement les idoles. Donc j'estime que c'est pas négligeable de le mentionner. Mais du coup, en fait, si on revient sur le point par rapport au fait qu'il y a certaines agences qui demandent à des idoles d'agir de telle manière pour pouvoir se construire une certaine image. Il y en a certains, du coup, qui remettent en cause la sincérité des K-pop idols en disant que, bah, en fait, tout est construit en avance, tout est fait en avance. avance. Leurs faits et gestes sont préparés, sont produits en avance. Et que du coup, il n'y a pas d'authenticité en fait dans cette industrie. Il n'y a rien d'authentique. Pourquoi je vais me fatiguer à m'attacher à des gens qui sont préfaits pour plaire à tout le monde, quoi. Et en soi, je peux comprendre. Parce que même si ça reste des êtres humains, et bien en fait, il y a énormément de choses qui sont pré-produites, pré-faites et qui sont de fait construites en sorte pour que ça plaise effectivement à tout le monde. Et franchement, ce serait compliqué de le nier. Du coup, en fait, à cause de ce manque d'authenticité ressenti par le public extérieur, je vais pas parler forcément des fans de K-pop parce que bon, les fans de K-pop en soi, eux, ils ont pas forcément de problème avec ça. Du moins, souvent, ils le voient pas en fait, ce manque d'authenticité, parce qu'ils tombent dedans. Moi la première, quand j'étais plus jeune. Mais du coup, le public extérieur, le grand public, le public que les agences coréennes maintenant visent le plus, et ben en fait, ce manque d'authenticité, ils le ressentent très vite. Et du coup, en fait, le fait de ressentir ce manque d'authenticité, ça fait que en fait, les idoles qui veulent réellement être des artistes à part entière, c'est-à-dire s'exprimer à travers leur art et pas juste être des performeurs qui performent les sons qu'on leur donne, ben en fait, ils peuvent pas parce qu'ils sont décrédibilisés par l'industrie en elle-même. Et c'est pour ça que, bon, ça c'est un autre débat, c'est un débat à part. Peut-être que j'en parlerai soit dans cet épisode, soit dans un autre, parce que, alors, je l'ai pas dit, je sais plus si je l'ai dit au début, je vais le redire au cas où, mais du coup, en fait, je pense que ça va être un épisode assez long. Du coup, comme j'aurai d'autres choses à dire encore, je pense que je vais le faire en plusieurs parties, je sais pas en combien de parties. Si j'arrive à dire tout ce que j'ai à dire ici, je le dirai. Sinon, je ferai en plusieurs parties, comme ça les épisodes seront pas trop longs, parce que je sais que des fois, quand c'est trop long, les gens, ils aiment pas trop. Du coup, bon, voilà, je vais faire de mon mieux pour que ce soit agréable, pas trop long, pas trop chiant, voilà. J'espère que là, déjà, j'espère que jusqu'à là, c'était bien, déjà. Et du coup, voilà, il y a cette barrière entre être idole et être artiste. Et je crois qu'il y a, du coup, RM de BTS qui en a parlé à plusieurs reprises, qui a cette barrière entre être idole et être un artiste. Lui, c'est un artiste qui, du coup, écrit, qui produit, qui performe ce qu'il écrit et ce qu'il produit. Et il a vraiment des vrais messages à faire passer, que ce soit en solo, que ce soit dans son groupe. Et en vrai, c'est un problème que j'ai aussi personnellement, parce qu'il y a plein d'artistes de K-pop que j'adore, mais je peux pas m'empêcher de voir ce manque d'authenticité dans leur projet. Bon, après, je suis médisante, je pense que c'est le mot. Je suis médisante parce que les artistes que j'aime bien, je trouve quand même qu'en termes de travaux solo qu'ils ont produits, en fait, le fait de travailler directement sur sa musique, ça s'est énormément démocratisé dans la K-pop. En fait, ce délire de manque d'authenticité, il est quand même un peu présent encore chez certains groupes, dont je tairai le nom parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Mais il y a aussi beaucoup d'idoles qui, du coup, mettent la main à la pâte et qui, du coup, travaillent vraiment sur leur art. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça surtout que le grand public recherchait. Parce que même si les artistes western n'écrivent pas forcément tous, je dis bien forcément, parce qu'en vrai, il y a quand même la grande majorité des artistes western qui quand même participent à leur son. Que ce soit dans l'écriture ou dans la production, peu importe. Même si c'est pas forcément le cas pour tout le monde, ils mettent la main à la pâte un peu quand même. Et c'est ça que le grand public voulait retrouver chez la K-pop, qu'ils ont pas forcément retrouvé, parce qu'en fait, quand t'arrives dans la K-pop et que tu découvres un peu comment ça fonctionne, c'est un peu comme si, il y a un boulanger, il est là, il distribue des pains, il dit tiens, une baguette, et que la personne qui a la baguette, elle dit regardez, j'ai fait une baguette. Non frérot, c'est pas toi qui l'a fait, c'est ton agence qui te l'a fait derrière toi, qui a travaillé tout, toi t'es pas rentré dans le studio une seule fois, t'as pas mis un pied dans le studio à part quand on t'a appelé pour te dire viens c'est l'heure d'enregistrer, vas-y viens, voilà, c'est tout. Et d'ailleurs en vrai, en parlant d'authenticité, j'ai envie de parler des fandoms, donc les fans, la culture du stan Twitter, tout ce bazar là. Il y a un terme que j'aime bien et que j'ai entendu dans un complément d'enquête sur le PSG, sur Narser, El Khelaifi et tout ça. Il y a un terme que j'aime bien, c'est armée numérique. En gros, pourquoi ils ont utilisé ça pour le PSG? C'était pour parler des comptes fans, donc type PSG community, tout ça. Des sortes de comptes communautés pour dédier au club, quoi. Et en gros, ça disait oui, ces comptes-là, ils sont dirigés par le club en lui-même. Bon, voilà, c'est juste le terme qui me plaît, en tout cas. Bon, désolé, là, vous allez entendre le ventilateur parce que en fait j'ai chaud, voilà, j'ai chaud en fait,
J'aimerais bien ne plus avoir chaud.
Je vais pas le mettre trop fort, histoire de pas vous bousiller les oreilles. Mais en tout cas, si vous entendez un petit vent dans le fond, c'est mon ventilo.
Du coup, pourquoi j'utilise ce terme armée numérique pour les fandoms de K-pop ? En fait, tout simplement parce que je trouve que c'est un terme qui leur correspond bien. Dans le sens où moi, j'ai été dans une fandom K-pop absolument largissime, qui est la fandom de BTS et qui est les ARMY. Et en gros, il y a énormément de côtés chez la fandom que j'adore, parce que voilà, ça reste quand même une fandom dans laquelle j'ai fait partie. Mais il y a aussi énormément de côtés dans la fandom que je déteste et qui m'ont limite fait dégoûter de la K-pop pendant un moment, parce que bon... En fait, ça allait trop loin, à mon avis. C'est mon propre avis, je trouve que ça allait trop loin, en fait. Un exemple de point qui m'agaçait chez les ARMY. En fait, j'ai dit les ARMY, mais en soi, en fait, c'est une culture un peu toxique de la consommation de la musique qui a été commencée, je trouve, c'est mon avis, hein, qui a été commencée par les grosses fandoms comme les ARMY, comme les Blink, comme un peu tous ces gens-là, là. Ça a été commencé par eux et ça s'est répandu un peu partout. Et du coup, en fait, je trouve que la musique n'est plus appréciable quand tu fais partie intégralement de ces fandoms. Ou du moins, si tu prends un peu trop au sérieux tout ce qui se passe dedans. Par exemple, du coup, comme je disais, la consommation en elle-même, elle est hyper toxique. Dans le sens où t'as des groupes de fans qui vont genre dédier, par exemple, leur journée à streamer. Donc ça veut dire à écouter. Pas en boucle, parce qu'en fait, ils sont tellement organisés qu'il y a des playlists qui sont faites pour streamer correctement la chanson sans que ce soit détecté comme étant robotique. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et honnêtement, en vrai, en y repensant, je suis peut-être un peu mauvaise langue. Parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment les fans de K-pop qui ont commencé ce genre de pratique ? Ou est-ce que ça date d'autres fandoms un peu plus western ? Ça, je le sais pas, honnêtement, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait partie d'une fandom western, à part celle de Ariana Grande. Mais honnêtement, celle d'Ariana Grande, j'y ai jamais fait partie totalement, parce que je trouve que c'est l'une des pires fandoms qui puisse exister. Mais du coup, voilà, je sais pas trop si ça date déjà d'avant, ou est-ce que c'est une pratique qui a été popularisée par les fans de K-pop. Mais honnêtement, je pense que c'est quand même un peu le cas. Parce que même si ça existait avant, franchement, j'en ai jamais entendu parler. Donc, bon, dans le doute, je dis que c'est ça. Et il y a un autre point aussi qui me dérange chez les fandoms, et pourquoi j'appelle ça des armées numériques. Parce que, enfin, en soi, c'est pas vraiment moi qui appelle ça comme ça, c'est juste une expression à part entière, quoi. C'est parce que c'est littéralement des armées numériques. En fait, c'est... Par exemple, dans le complément d'enquête sur le PSG, les comptes comme, par exemple, PSG Community, hein, pour ne citer que eux, bah, c'est littéralement ce qu'ils font, c'est qu'ils traquent tous ceux qui parlent mal du club, et il y a pas des campagnes d'harcèlement, mais genre ils deviennent virulents en fait envers ces personnes. Et en fait, les fandoms de K-pop, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire que tu peux pas critiquer leur artiste sans risquer de te prendre une vague de cyberharcèlement comme t'en as jamais connu. Et le problème, c'est que bah, ce genre de pratique, ça rend les gens hyper réticents à la découverte de leur groupe, ou même du style musical en lui-même, quoi. Enfin, pas du style musical, mais du coup, de l'univers K-pop en lui-même. Et malheureusement, les fans de K-pop ont popularisé le fait d'être virulent envers... Non, je dirais pas qu'ils l'ont popularisé en soi. Je pense qu'ils l'ont popularisé juste sur les réseaux. Mais c'est vrai que bon, les fanatiques ont toujours été assez virulents envers les gens qui dénigrent leur artiste. Mais je trouve que chez les fans de K-pop, c'est particulièrement pire. Et du coup aussi, pour revenir sur le streaming, en fait, pour ceux qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, en gros, vous avez des playlists et vous mettez en gros 3 chansons, la chanson à streamer, 3 autres chansons, la chanson à streamer, 3 autres chansons, la chanson à streamer, pour que ça paraisse pas robotique, en gros. Parce que si vous écoutez en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et ben en fait, ça va paraître comme de la manipulation de classement. Parce qu'en fait, le but, pourquoi certaines fandoms font ça, certains groupes de fans, on va dire, font ça, parce que c'est pas forcément toute la fandom, pourquoi certains groupes de fans font ça, c'est pour faire monter les sons en question dans les classements de streaming. Et il y a beaucoup de personnes qui sont un peu extérieures à ça, qui ont call out ce genre de pratique en disant, mais en fait, du coup, bah, les classements, ils sont pas forcément authentiques. Alors attention, je parle pas de pour tous les sons, parce que forcément, il y a des sons de K-pop qui ont extrêmement bien marché, mais qui ont pas forcément bien marché que grâce à ce genre de pratique. Alors que
je connais certains sons et je vais pas en citer parce que j'ai peur pour ma vie. Mais il y a certains sons, j'en ai quelques-uns en tête, qui ont grimpé dans les classements de streaming, mais pas de manière organique, de manière... Du coup, inorganique, j'allais dire, mais oui, c'est ça, inorganique. Je sais pas si c'est un mot. Pas de manière naturelle, en tout cas. C'est-à-dire qu'ils ont grimpé dans le classement grâce à ces manipulations de classement par les fans. Mais du coup, ça donne un aspect inauthentique au classement et au succès d'un son. Parce que tu peux avoir un son qui va être premier dans le classement, mais quand tu vas demander aux gens est-ce qu'ils l'ont déjà entendu, bof, quoi. Je parlerai pas forcément du passage à la radio, tout ça, parce que on sait un peu tous que pour passer à la radio, il faut avoir certaines connexions, du flouze, de la monnaie, de l'argent, de l'oseille, tout ça. Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, je dis pas ça, mais il y en a certains qui utilisent ce genre de pratique qu'on appelle le payola pour passer à la radio, quoi. Du coup, moi, je parle pas forcément de ça. Moi, je parle que de quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis explicitement « Je connais cette chanson, elle a quand même beaucoup de streams, hein. Oh non !» Non. Après, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les sons, je dis pas ça. Parce que forcément, même moi, il y a des sons qui ont énormément de streams, je ne les connais absolument pas. Et pourtant, ils sont énormément streamés. Mais là, je vous parle d'un son. Enfin, je vous parle. Il y a quand même des sons. Ils ont énormément de streams. Enfin, faut quand même faire fort pour pas les connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça fait déjà 30 minutes que le podcast a commencé. Je pense que je vais m'arrêter là. Ce sera une première partie sur la K-pop. Et je vais peut-être faire une seconde partie où je vais plus parler de mes unpopular opinions parce que j'en ai plein. J'ai beaucoup de choses à dire, je vous l'ai dit. Mais comme j'ai pas envie que l'épisode dure trop longtemps, là j'avais juste envie de faire une petite introduction, un épisode où j'explique un petit peu. J'ai peut-être pas expliqué tout parfaitement. J'ai expliqué un peu les réticences que les gens ont envers ce genre, envers cette industrie, pourquoi elle est un peu mal cernée par le grand public. Je rajouterai peut-être quelques précisions si ça me vient en tête au moment où j'enregistrerai la partie 2. Mais pour l'instant, je pense que vous avez les bases. Dans le prochain épisode, je pense que je vais, du coup, comme je vous l'ai dit, rajouter quelques précisions. Je vais dire un peu mes unpopular opinions et peut-être que je vous donnerai quelques petites recommandations parce que oui, même si j'ai des choses à dire sur cette industrie, il y a quand même des artistes qui valent le coup et des projets qui valent le coup. Donc, j'ai quand même envie de partager un peu tout ça. Bref, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'espère vous revoir à la partie 2 parce que je pense que si vous avez apprécié cet épisode, vous allez encore plus apprécier le second, parce que là, comme je vous ai dit, c'était un petit peu une intro. J'ai expliqué surtout beaucoup de choses, peut-être pas parfaitement, peut-être qu'il y aura des petites corrections au montage, mais du coup, voilà, j'espère que ça sera quand même suffisant. Normalement, ça l'est. Et sur ce, moi, je vous dis bye bye, bonne journée, bonne nuit, et bonne santé. Allez, bisous.